suis propriétaire d'un immocat, franchement, ouais, ça me paraît complètement fou.
On passe pas mal de temps à convaincre.
On sent aujourd'hui l'intérêt des médias pour cette course.
Aujourd'hui, je partirai sur le Vendée Globe avec cette voile.
La première manche de la saison du circuit Imoca, c'est Capagir Ensemble qui l'a remporté.
C'est la plus belle course que j'ai faite.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marsay, produit et réalisé par Audio Tactique.
On va faire les 1800 000, on reste en course et on va en Martinique, quoi. Mais ça, c'est... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Quête de Globe. Et surtout, bonne année 2024. Je souhaite qu'elle soit excellente. Et ben pour notre projet, ça est synonyme de Vendée Globe, l'année 2024. Donc, plein d'aventures à venir et à partager avec vous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revivre la Transat Jacques Vabre, qui était l'une des épreuves principales de la saison 2023, pour laquelle j'étais accompagné de Sophie Faguet en tant que co-skipper du bateau. Et donc, Sophie est là pour vous faire revivre cette Transat Jacques Vabre. Salut Sophie.
Salut tout le monde.
Donc, c'est vrai que cette Transat Jacques Vabre, elle a été... je dirais inattendu à tout point de vue. Ça a commencé par le départ. Donc le départ, on a vécu une super dizaine de jours de village au Havre avec beaucoup d'animation, beaucoup de visites. Tous les partenaires du projet que je remercie d'être passés cette super journée partenaire qu'on a pu faire ensemble sur place. Et puis les animations mises en place en soutien au fonds de dotation handicap Agir Ensemble qu'on a pu mener sur le village. Et c'est vrai que le jour du départ, franchement, on a eu une sorte de douche froide, enfin quelque chose qui arrive quasiment jamais, enfin qui à ma connaissance qui est jamais arrivé. C'est-à-dire que moi j'étais en train de quitter mon hébergement avec ma femme, mes enfants, enfin j'étais en ciré, les bottes étaient là, parce qu'il faisait pas beau en plus. Et là on reçoit un SMS en disant pas de départ pour vous aujourd'hui quoi. Et donc c'est vrai que c'est très 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 inattendu et en fait il s'est trouvé que une tempête qui s'est creusée sur l'Atlantique au large du golfe de Gascogne qui s'est intensifiée très rapidement et qui a fait que plus aucun des bateaux ne pouvait aller en mer dans des conditions de sécurité et que donc pour la flotte des IMOCA ce qui a été décidé c'est de rester à quai au Havre pour un redépart à une date inconnue, en fait. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et puis, une matinée de départ très étrange, parce qu'il y avait beaucoup de monde à nouveau qui était là pour nous encourager. Et je remercie toutes celles et ceux qui étaient là, puis ceux qui suivaient à distance. Et donc, on a fait autre chose. On a fait visiter le bateau, on a passé du temps ensemble. Et puis, on a essayé de s'organiser comme on pouvait pour ce futur redépart, et qui était forcément... lié à l'évolution de cette dépression qui a balayé vraiment la Bretagne où moi j'étais. Et puis c'est vrai que toi Sophie, t'as pu le vivre directement depuis le Havre, parce que t'es originaire du Havre, enfin t'as vécu longtemps au Havre, et donc t'étais au plus près du bateau avec Tom et Matt pour assurer une surveillance quand même pendant tout ce moment qui était tendu. C'était compliqué d'avoir le bateau à quai à ce moment-là aussi.
Bah ouais, je reviens un peu en arrière parce que toi t'as appris ça par SMS dans l'ascenseur, moi j'étais déjà sur les quais et je me suis rendu compte qu'ils avaient décalé un peu les classes 40 et que ça allait forcément nous impacter. Et puis c'est quelqu'un qui est passé et qui m'a dit mais au fait, pourquoi t'es toujours en tenue, vous partez plus. Donc ouais, c'était un moment très spécial, on a tous compris et on a respecté cette décision, on l'a bien vu effectivement. Au Havre, lorsque la tempête est passée, le Havre c'est quand même un peu enclavé hein, au fond de la baie de Seine, et malgré tout, toute cette semaine là, le vent il a soufflé vraiment très fort, il était parfaitement dans l'axe du bassin. Heureusement, on n'était plus que les IMOCA, et ce qui nous a permis de déplacer les bateaux et de les sécuriser vraiment fort des deux côtés du bassin, ce qui n'aurait pas été possible avec les autres flottes. Et puis, ce que ça a surtout, moi, ça m'a surtout marqué parce que ça a généré un vrai esprit solidaire entre tous les teams. Et je peux vous assurer que surveiller les bateaux la première nuit, notamment où la tempête est arrivée, dans des bâtiments ou directement dans les bateaux pour certains teams, c'était vraiment pas quelque chose de drôle. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'étais en contact direct avec des membres de ces teams-là, et donc ils ont fait un peu le travail pour nous aussi. Et puis de les relayer, de passer, de voilà, l'idée c'était que tout le monde ne soit pas non plus bloqué H24 autour de ce bassin un peu déserté, hein, parce que le village avait été démonté également pour la tempête. Donc c'était une ambiance très particulière mais très solidaire.
Puis les autres conséquences que ça a eu, c'est que on savait pas quand est-ce qu'on allait partir. Et donc, en termes d'organisation, c'est beaucoup, beaucoup de doutes. Il y a l'équipe à envoyer en Martinique, il y a les avitaillements à gérer, quand est-ce qu'on rentre chez nous, pour combien de temps. Beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Et finalement, je crois qu'on est parti avec 8 jours de décalage, non ? C'est ça ? On est parti, je crois, le 7 ou le 8 novembre.
Oui, on est parti le 7 et on devait partir à l'origine le 29 octobre. C'est ça.
Et donc c'est vrai que ce départ, il a été particulier jusqu'au moment où on a coupé la ligne de départ, ne serait-ce que quitter le port, ça a été voilà avant le lever du jour, dans la nuit noire, il y avait encore 30 nœuds de vent, il y avait tous les bateaux qui tournaient dans cet énorme bassin, ces deux énormes bassins qui sont au Havre, en attendant de pouvoir accéder au SAS, parce que le SAS c'est la partie qui nous permet de sortir en fait du port vers la mer, et du fait des coefficients de marée qui étaient très faibles, il était accessible pendant, je sais plus, moins d'une heure. Donc, pour faire passer les 40 bateaux, voilà, fallait être bien organisé. Et c'est vrai que dès qu'on est à l'extérieur du SAS, ensuite, on passe les jetées, et là, tout de suite, il y a du clapot, il y a de la mer, et on a encore 3-4 heures avant le départ avec Tom et Matt qui sont à bord et qu'on doit débarquer dans des conditions de sécurité les plus safe possibles. Alors à chaque fois, pour eux, c'est de sauter à l'eau tout simplement. Donc c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce qu'en termes de sécu, l'une des grosses peurs sur ces bateaux-là, c'est l'homme à la mer. Et là, quand on a l'équipe technique à bord, le moyen le plus safe de les débarquer, c'est de les faire sauter à l'eau un par un avec des gilets, des combinaisons et évidemment un semi-rigide à proximité prêt à les récupérer. Donc souvent ils s'en donnent à cœur joie avec des petites figures au moment où ils sautent du bateau. Et donc on les a débarqués, tout s'est bien passé. Et puis on a pris le départ. Peut-être que Sophie, c'est toi vraiment qui a préparé au plus près la partie météo, stratégie de ce début de course. Peut-être que tu peux nous en parler un peu.
Le départ bien particulier, hein. La baie de Seine, c'est, je vous l'ai dit, elle est la côte d'où on partait, elle est très exposée ouest. Il y a des bancs de sable juste sous la pointe de la Hève, ce qui lève une mer vraiment pas très bien rangée devant le Havre. On part proche forcément de la marée haute puisqu'il faut qu'on puisse sasser. Et donc tout ça, ça fait des éléments avec les courants de la baie de Seine qui nous font une mer formée et bien mal rangée. C'était le cas, on avait 25-30 nœuds au moment du départ. On a assez vite fait notre choix de configuration de voile, hein, évidemment, pour pouvoir manœuvrer en sécurité. Et j'ai trouvé que... Alors moi, j'ai un peu de chance, c'est-à-dire que, comme tu le dis, je devais préparer encore la météo et tout. Donc je crois que c'était quasiment 4 ou 5 heures d'attente entre le départ du quai et le top départ. Sous le cap de la Hève, et donc moi j'ai été beaucoup à l'intérieur à télécharger les derniers fichiers, les derniers roadbooks aussi des différents météorologues qui nous suivent, et essayer d'intégrer toutes ces informations un peu plus précises sur l'instant T. Et puis ensuite, une fois que Tom et Matt ont débarqué, c'est à nous deux de nous organiser et de mettre en place notre approche de ligne. Donc on savait avant le départ et ce jour-là qu'on partait pour du prêt longtemps, donc le vent de face, la mer de face, qu'il fallait passer au large du Cotentin, où on sait que pareil, là-bas, il y a des forts courants, donc une mer bien hachée aussi. Donc je pense que mentalement, on était prêts, on avait une semaine pour se préparer encore plus à affronter quelques fronts sympathiques. Et donc, finalement, content de partir après 7 jours d'attente, ce qui est assez inhabituel. Et puis, on a fait une approche de ligne, assez longtemps à l'avance et finalement pas trop mal calculé et ça s'est vachement bien passé. Franchement, moi je suis hyper fière du départ qu'on a fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est parti à côté des bateaux les plus proches de la ligne. Alors évidemment, on va pas aussi vite, donc très peu de temps après, on n'est plus forcément dans les bateaux de tête, mais en tout cas, c'était un chouette moment, hyper galvanisant en tout cas, toujours un peu stressant. Enfin voilà, c'est excitant, quoi. C'est un départ de course, on était 40 bateaux, c'était juste incroyable.
Ouais, c'était un super départ, je pense que ouais, non, c'est clair, on a fait un super départ, on était là où on voulait, on maîtrisait complètement notre trajectoire, c'était pas le cas forcément de tout le monde. Et non, super départ, et puis c'est vrai que on part aussi en sachant que, je sais plus, c'était en gros, c'était au moment de la Pointe-Bretagne où on avait ce premier front à passer, donc c'était plus la tempête en question, mais c'était quand même un coup de vent qu'on avait à affronter. Il y avait, je sais plus, on a eu jusqu'à 40, 45 nœuds peut-être en rafale. Il y avait de la mer quand même. Moi, j'ai le souvenir qu'on a beaucoup tapé, et surtout que ce premier front qu'on passe à la Pointe-Bretagne, il y a beaucoup de cases dans la flotte. Je pense qu'il y a une dizaine de bateaux qui font escale, font demi-tour. Donc c'est vrai qu'on avait ce premier front qui arrivait, qu'on savait qu'on allait devoir affronter, et qu'on a passé finalement sans encombre. Alors peut-être avec un peu de retenue sur en termes de trajectoire, mais on sort de ce front avec le paquet des bateaux à dérive qui sont nos adversaires directs. Et puis on est dans le coup, quoi. On est dans le match, on est dans la course. Ça y est, on est lancé. Je vous dis, on a passé ce premier front qui était le premier coup de vent. Après, on va pouvoir adapter une stratégie. C'est vrai que moi, je pense que j'ai soufflé un peu après le passage de ce premier front, et je me suis dit bon voilà, allez, là maintenant, c'est parti, on est parti, quoi. Une fois qu'on a passé ce premier front au large de la pointe bretonne, on part vers le sud-ouest. C'est plus de la vitesse, c'est un peu plus tout droit. Et par contre, il y a cette grosse question qu'on a depuis plusieurs jours en tête, c'est comment on contourne l'anticyclone, comment on contourne cet anticyclone des Açores qui vraiment barre complètement la route. On voit pas de porte de passage, et c'est un long travail de stratégie sur l'ordi, de météo pour essayer d'entrevoir une route, parce que la route sud nous semble barrée et la route ouest, donc on voit pas de moment auquel on pourrait redescendre sous cet anticyclone. Et donc, peut-être Sophie, tu peux en parler à nouveau, toi, de cette partie navigation, stratégie, de la place que ça a pris dans tout le temps que ça nous a demandé de réflexion, quoi.
Bah ouais, effectivement, après ce front-là, on était parti quand même pour faire du prêt assez longtemps sur le même bord et descendre vers le sud-ouest, tu l'as dit. Et puis, le gros point clé, effectivement, c'est d'être à l'affût de la sortie des différents fichiers pour les comparer et essayer de trouver laquelle des deux options, nord ou sud, le long du Portugal ou directement vers le large, va s'ouvrir à nous pour traverser cet océan. Et donc, en fait, finalement, la vie du bord, elle s'est organisée autour de ça, autour de ces moments d'analyse, de ces moments d'échange. Et puis, on a décidé à deux, du coup, avec toi, Sébastien, de se donner une limite sud de prise de décision. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu sur les 3-4 jours qui venaient, jusqu'à quand les routes proposées, des routages étaient convergentes. Et puis on s'est dit OK, quand elles divergent, et ben c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'on ait au plus tard pris notre décision, route nord ou route sud. Et donc voilà, les jours ils se sont succédés autour de ça. En termes de navigation et de vie à bord, c'était pas très agréable, hein. On avait des nuits très longues, très noires, un peu froides, le bateau évidemment qui tapait beaucoup. Plus on allait au large et plus il y avait de la houle. Et des petites sueurs pour essayer de se dire les voiles vont tenir, changer. Finalement, ce qu'on a fait en termes de manœuvre, je pense que c'est mettre des ris, enlever des ris, peut-être passer J2, J3 de temps en temps. Mais en termes de manœuvre, c'était assez limité et assez monotone. Et une grosse concentration tous les deux sur ce choix météo, et on a bien respecté notre plan, c'est-à-dire que voilà, arrivé à ce fameux endroit qui était à peu près au niveau du Cap Finistère, au large du Cap Finistère, on a pris les derniers fichiers, on a eu les tendances données par les jours précédents, et puis on a pris cette décision d'aller vers l'ouest, tout simplement parce que cet anticyclone il barrait toujours la route et que ça nous laissait Même si on n'avait pas la vision de quand est-ce qu'on pourrait redescendre sur la route pour rejoindre les Antilles, eh bien, ça nous ouvrait quand même plus de possibilités avec une météo qui allait évoluer. On a choisi une option qui nous laissait encore une route assez ouverte pour la fin de course, pour la mi-course.
Ouais, moi j'ai le souvenir que c'est vraiment au large de Lisbonne où il y a un tout petit front qui passe et où le groupe, notre groupe de dériveurs, de bateaux à dérive se scinde parce qu'en gros, il y a 2-3 heures à faire de bâbord à mur en partant vers l'ouest pour aller chercher la rotation nord-ouest. Et ceux qui le font, clairement, marquent leur intérêt pour la route ouest. Et ceux qui le font pas, font l'autre, quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là où on identifie qui y va franchement et qui n'y va pas, quoi. Et donc, nous, on se retrouve avec notre groupe de bateaux, avec Louis, avec Benjamin, avec Guirec. Et c'est sympa, franchement, la régate, elle est sympa. On compare les vitesses et tout, c'est cool, hein. Et même si, voilà, petit à petit, en termes de vitesse pure, bah, on voit que certains bateaux ont progressé, peut-être plus vite que nous. Mais en tout cas, la régate, elle est omniprésente. Et ça rythme à fond la vie à bord, comme tu le dis, la sortie des fichiers météo, les fichiers de... On a la position des autres bateaux toutes les heures. Et franchement, toutes les heures, on peut se dire, oh là là, mais est-ce que sur le temps de la traversée, il y a besoin d'aller regarder toutes les heures la progression de vos concurrents? Et franchement, il n'y a pas beaucoup de moments où on l'a pas fait, je pense, quoi. Parce que même si on est dans les 20e places avec nos bateaux, bon, c'est une compète, quoi. C'est une vraie compète. Il y a une intensité qui est assez forte, enfin qui est très forte même, quoi. Donc voilà, et puis par là-dessus, on vit à bord avec, là on est bien rentré dans le rythme de la course, les repas lyophilisés, c'est 100% de nos repas, et on se relaie tous les deux avec un rythme qui est quand même assez, franchement on l'a bien tenu le rythme, hein, de faire 2 heures, 2 heures, et puis d'adapter parfois quand il y avait des variations de rythme de vie à bord, par un changement de manœuvre qui tombe mal, un besoin de dispo pour une fichier météo, l'un de nous deux qui n'arrive pas à sortir de la banette, et donc on se dit, bon allez, je laisse une heure de plus. Des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a le duo fonctionne bien, il est en route, il fonctionne bien, quoi. Et c'est vrai qu'autour du... On a commencé à avoir des... Comment dire, à se préoccuper de notre gréement, donc les câbles qui tiennent le mât au bateau, avoir une surveillance un peu accrue autour du 14-15 novembre, parce qu'on est en bâbord à mur, donc on reçoit le vent de la gauche. Et quand on va régler les voiles, on voit les câbles qui sont du côté sous le vent, donc ce sont ceux qui tiennent pas la charge, et puis il y en a un qui se détend, quoi. Il y en a un qui se détend, et moi ça me dérange, quoi. Donc on le surveille, le lendemain il est encore un peu plus détendu, donc on décide de s'arrêter le temps de quelques heures pour monter au mât, identifier le problème. On le fait en 2 fois, je monte une première fois, on identifie, ensuite on sollicite l'équipe technique à terre qui dit, ah bah faudrait peut-être faire ci, faire ça. On monte une 2e fois, on arrive à retendre ce câble. Et du coup, le lendemain, surveillance toujours accrue, on continue à regarder ces câbles et tout. Et puis, il y a le câble juste au-dessus. Ah, putain, on se dit, putain, celui-là aussi, il est un peu desserré, quoi. Donc, de nouveau, paf, arrêt, monter au mât, vérifier. Puis, du coup, là, on fait la révérif totale, quoi. Toutes les fixations, on les regarde toutes. Parce que demain, il y a le dernier front qui passe. Et ce front, il doit nous permettre ensuite de descendre plein sud vers les Antilles, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il n'y a rien d'autre. C'était une conséquence de la tension que j'avais mis la veille. Enfin, il n'y avait rien d'autre qui avait bougé. Et donc, on continue. On part plein ouest vers ce front en se disant, yes, enfin, après, on va pouvoir faire du sud et aller vers les Antilles, quoi. Et faire autre chose que du près, parce que ça fait quand même près d'une dizaine de jours qu'on fait du près, qu'on est face au vent à taper dans les vagues. Et donc, de nuit, c'est la nuit du 15 au 16, dernier quart de nuit, je te relais, Sophie, je monte sur le pont, puis je m'assois dans le siège de veille. Au bout de 5 minutes, je prends le projo, je me dis, tiens, je jette un coup d'œil sur le pont, quoi. Et là, j'éclaire vers l'avant et je vois notre étai de J2. Donc, l'étai de J2, c'est le câble principal qui tient le mât sur lequel est enroulée une voile qui s'appelle le J2, qui est tout mou, quoi. Et je me dis, tiens, l'étai de J2, il est tout mou, il se promène, quoi, c'est pas normal. Donc je me dis, on a d'autres câbles qui tiennent le mât vers l'avant. Je me dis, tiens, ceux-là, ils sont peut-être trop tendus. Donc je les lâche un petit peu. Et bon, ça retend un peu les têtes J2, mais pas autant que je voudrais, quoi. Et je me rassois dans le siège de veille. Je regarde vers l'arrière. Et là, je vois la Bastac, qui est le câble qui tient le mât vers l'arrière, toute molle. Je retends la Bastac, quoi. Je retends la Bastac, sauf qu'on a un repère de tension, une marque, et là, la marque, je la dépasse, mais amplement, quoi, et facilement, quoi. Je dis, ça, c'est bizarre. Donc, je reprends mon projecteur, et là, je regarde devant, je vais sous le vent, et je regarde ces câbles que je regardais déjà depuis 2-3 jours attentivement, et là, vraiment, tout est mou, quoi. Tout bas au vent, les barres de flèches se promènent, les câbles sont mous, je les vois, ils sont même plus droits, quoi, c'est-à-dire qu'ils se courbent. Et là, je me dis, ah, là, il y a un gros souci. Et donc là, je te réveille, Sophie.
Ouais, c'est le genre de réveil que t'as pas envie d'avoir. C'était pas un genre de parano, mais après 3 jours à passer déjà les yeux rivés sur le mât, ce réveil-là, il a été bien plus brutal. On était déjà au reaching, c'était les dernières heures vers le front, donc il y avait déjà 20-25 nœuds sous J3. J3 et j'avais au moins un riz. Donc ça, c'est vraiment, le bateau il bombardait et on était plutôt en mode ça va y aller à fond jusqu'à prendre ce fond. Et enfin après on va souffler, parce que tu l'as raconté, hein, pour régler ce auban qui était détendu, ça nous a quand même demandé énormément d'énergie. T'es monté 2 fois dans le mât, c'est pas anodin, ça veut dire qu'à chaque fois il faut ralentir, enlever une partie des voiles, les renvoyer derrière. Enfin, ça nous a vraiment pompé, et puis ça pompe de l'énergie, et puis c'est dur mentalement aussi de se dire qu'on ralentit alors que les petits copains ils continuent d'avancer. Et à chaque fois on a su se remobiliser, et puis ça au bout de 3 jours où ça recommence, mais bien plus gravement, parce qu'on identifie le problème. Quand tu me réveilles, moi je vois tout de suite ce qui va pas, c'est que le mât est trop sur l'arrière et qu'effectivement la Bastac est pas au bon endroit, donc on réfléchit à deux pour remettre de la tension dans tout le gréement en basculant. Et surtout, on se rend compte qu'on a perdu cette pièce qui est structurelle, qui tient le mât, et que là, si on n'agit pas vite et bien, le risque, c'est que tout s'arrête et que le mât tombe, quoi. Et ça, c'est aussi difficile à avaler, parce que ça veut vraiment dire que ta course, à ce moment-là, elle est en stand-by, et on est tous les deux des compétiteurs, et on a tous les deux cette saison... pendant les courses, dû mettre un peu la compétition entre parenthèses. Et celle-là, on n'avait pas envie, quoi. On n'avait pas envie de s'arrêter, on n'avait pas envie d'attendre, on n'avait pas envie de ralentir. Mais là, tu n'as plus le choix, quoi. Tu es obligé d'agir en bon marin et de passer à l'opérationnel. Et donc, au début, le premier réflexe, ça a été de tirer la barre. Ça veut dire de partir vers le nord, toujours de nuit, hein, encore. Ça veut dire que le front, quand il va arriver, on va être dans une partie qui est encore plus intense, plus forte, plus de vagues. Tout ce qu'on essayait d'éviter avec nos routages, quoi. Donc ça s'est fait en deux parties, quoi. Se partir vers le nord, sécuriser le mât pour pouvoir empanner, faire demi-tour et partir vers l'est dans des conditions plus maniables pour passer sur la grosse partie de sécurisation de cet été de J2 là qui se baladait tout seul au milieu de la nuit, quoi.
Ouais, c'est vrai que moi je le vis un peu différemment de toi, je pense, Sophie, parce que il y a l'aspect compète, mais alors moi je le mets de côté, mais directement, parce que ce que je vois tout de suite, c'est la fin potentielle du projet, quoi. Le bateau dématé à 500 milles dans le sud-ouest des Açores, c'est une catastrophe, quoi. C'est la pire des catastrophes qui peut arriver. Ça peut être l'arrêt immédiat du projet, quoi, de pas réussir à s'aligner au départ du Vendée Globe, quoi, qui est quand même l'objectif, quoi. Et donc, c'est vrai que on est raccord, on part vers le nord, tac, on empanne, on repart vers l'est pour être dans des conditions plus maniables, et après on cherche une solution pour tenir ce mât décemment, On ne sait pas du tout. Est-ce qu'on va rallier la Martinique? Est-ce qu'on va faire escale aux Açores? Est-ce qu'on va... Franchement, à ce moment-là, c'est vraiment pas du tout la préoccupation. C'est juste que le mât, il tienne, quoi. Et donc, dans notre malheur, on a une chance, c'est que on a à bord une pièce qui s'appelle un émerillon. C'est une pièce qui est faite pour ça, pour tenir les mâts. C'est une pièce qui permet à un câble de tourner sur lui-même, qui est exactement aux dimensions dont on a besoin pour refixer le câble au pont, en fait. Et, entre guillemets, la seule chose qu'on a à faire, c'est trouver un moyen de fixer cette pièce et ensuite de tendre le câble. Parce que quand on tend ce gréement à terre, on a une pompe hydraulique, on monte tout le mât à 5 bars sur des vérins hydrauliques, donc on met quand même une pression énorme. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Franchement, on ne le sait pas. Et en plus, il se trouve que donc, sur ce câble, il y a une voile qui est roulée, et il ne faut absolument pas que cette voile se déroule, parce que si elle se déroule alors que le câble n'est plus tenu au bateau, ben là, c'est la catastrophe. On n'a plus du tout la maîtrise de cette voile qui fait une centaine de mètres carrés, et comme tu dis, il y a 25-30 nœuds, donc si la voile se déroule, franchement, on est encore dans une situation encore pire. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire si elle s'était déroulée. Franchement, je ne sais pas du tout. Et donc, l'équipe technique est prévenue à terre. On a quelques conseils qui nous parviennent. Et puis nous, on a déballé tous les sacs avec le matériel de remplacement qu'on a à bord. Et assez rapidement, on fait le constat que c'est cette pièce-là qu'il faut mettre au bout du câble et réussir à tendre pour sécuriser tout le gréement. Par contre, ça veut dire qu'on ne se sert plus du J2, qui est la voile qui est enroulée sur ce câble, parce qu'on n'aura plus de dispositif pour la rouler, dérouler, tout simplement. On a passé, franchement, ça nous est arrivé le matin, on a passé toute la journée à partir plein est, au ralenti, à mettre ça en œuvre. Et ça nous a pris une énergie dingue. On a tout déballé à bord, on avait besoin de tout. Et à la finale, on a réussi. Et moi, je me souviens, franchement, le moment où on se dit ça va le faire, c'est tu vois, le moment où on a mis l'axe sur ce câble, sur l'axe de l'Emerillon sur le câble, je dis yes, là on tient quelque chose, là on va y arriver, on va pouvoir sécuriser ce mât. Franchement, à ce moment-là, ça a été un soulagement, mais de ouf.
Bah ouais, le soulagement, le premier, c'était de trouver la pièce. Et moi, j'ai eu quand même un gros soulagement, c'est quand t'es monté deux fois dans ce J2, qui était roulé, mais plus bien tendu en vertical, et pour le sécuriser, quoi. Quand t'es redescendu là et que tu m'as saucissonné la voile deux fois, c'était un gros soulagement. Et après, déjà, quand t'as sécurisé ça, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, on n'est pas plus idiots que les autres, on va y arriver. Et finalement, cette manipulation d'enlever la galette d'enrouleur en bas de la voile et de la remplacer par cet émerillon, elle s'est plutôt bien passée, même très bien passée, parce qu'on a réussi à remettre la tension qu'on voulait mettre dedans, voire un peu plus même.
Ouais, carrément. Et donc c'est vrai que juste avant la tombée de la nuit, on a un état J2 qui est en place, et donc on envoie un message à l'équipe en leur disant on a un état J2, quoi. Et on reprend notre route vers l'ouest. Et franchement, c'est vrai que moi, en tant que, tu vois, je suis armateur du bateau, je suis skipper du bateau. Quand tu es à 500 000 des Açores, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à sécuriser mon mât. J'ai 1 800 000 à faire pour aller en Martinique. Je suis à 500 000 d'une terre. Franchement, on a décidé de continuer. L'idée, moi, elle m'a effleuré. On l'a abordé ensemble, mais 2 minutes. Et là, c'est quand même pas mal. Je me dis, c'est audacieux, quoi. C'est quand même assez audacieux de se dire, non. Là, ce qu'on a fait, tous les deux, avec nos moyens du bord, on va faire les 1 800 000. On reste en course. On est en course. Et on va en Martinique, quoi. Et ça, c'est... Et c'est vrai qu'une fois qu'on a mis en place cet état de J2, qu'on reprend notre route vers l'ouest-sud-ouest, voilà, avec l'équipe technique, on échange. Il y a les professionnels du gréement qui sont derrière, Iroas Gréement, Tenran, qui nous conseillent par l'intermédiaire de l'équipe technique. Et là, on se dit, ouais, ce que vous avez fait, c'est costaud, vous pouvez y aller. Alors, on a un potentiel qui est entamé, parce que le J2, comme je disais, on ne peut plus s'en servir. Néanmoins, on reprend de l'énergie, parce que ça avait vraiment pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on se remet dedans. Et puis, au fur et à mesure des heures et des jours, on se remet en course. Et c'est vrai qu'on se dit, à un moment donné, et même je le communique à l'équipe à terre à travers un message, je dis non, on ne va pas faire que rallier la Martinique. On a tout fait pour rester en course. On est en course. Bien que notre classement ne soit pas celui espéré, bien qu'on ait un potentiel qui est entamé, on est en course. Et c'est vrai qu'on a remis de l'énergie sur cette fin de course, et peut-être tu peux nous en parler, Sophie. Non, notamment, on a fait des super bords sous Tispi, sous Jenac. On a eu quand même des phases de navigation vraiment sympas, quoi.
Ouais, oui, c'est ça. On a eu un petit crash test avec un gros orage à la fin de cette journée qui nous a bien fatigués, avec les éclairs qui nous tombaient à côté, la pluie, tout le bazar, et la rotation du vent tant attendue. On a décidé d'envoyer le petit speed d'abord, et franchement, c'était au début, je pense qu'on serrait un peu les fesses, forcément. On surveillait beaucoup le gréement encore, et notamment cet état de J2. Et puis, par contre, en fait, ça a vite laissé la place à l'euphorie, quoi, parce que c'était un vrai plaisir d'avoir le bateau quasiment aller à 95-100% de ses capacités, d'avoir des méga surf, parce que on avait 3 ou 4 mètres de houle avec nous. C'était hyper grisant, quoi. Après, le vent a tourné, on a fait toute la garde-robe, on a mis le génac, on a mis le fro, on allait vite, en face de nous, enfin devant nous, on a eu un petit peu une petite target sportive avec New Rest qui était sur notre route. On a passé 2 jours à essayer de le rattraper et à regarder les milles qui diminuaient, et ça nous a vraiment remis dans un mood positif et compétitif, et ça c'était... Bah, je pense qu'on avait vraiment besoin de ça pour accélérer le rythme et puis pour bien vivre cette deuxième partie de Transat, quoi.
Ouais, carrément. C'est vrai que le fait d'avoir des bateaux autour, ça nous a stimulé. On se l'est dit. Alors c'était New Europe, New Rest. Il était sur une route complètement sud. C'était New Europe qui était vraiment notre target. Où on finit derrière lui. Je sais plus de combien d'heures. Pas de beaucoup, et certainement qu'on aurait pu l'avoir, mais on l'a pas eu. C'est vrai que moi j'ai fait une erreur de nave liée à la fatigue un soir où il y avait une zone de 100 vents à éviter, et j'avais tout sous les yeux, j'avais toutes les informations sous les yeux, et je me disais, tiens, c'est dingue quand même, les fichiers, l'image SAT, tout dit qu'il n'y a pas de vent ici, mais pourtant j'ai du vent. 2 minutes plus tard, paf, 0 nœud de vent, 2 mètres de houle, on était à l'arrêt pendant 1h30, et c'est peut-être ça qui nous a coûté la place sur New Europe. Mais bon, à la finale, moi je trouve que voilà, on aurait été content de le doubler, mais à la finale c'est quand même assez anecdotique par rapport à ce qu'on a réussi à réaliser, à finir la course avec le mât en bon état, je pense qu'on a... Moi, j'ai appris grâce à toi sur le bateau, Sophie. Toi, tu as appris de l'IMOCA, des bateaux. Et voilà, qu'on a quand même eu des moments de nave super chouettes, quoi. Enfin, voilà, ces bords, ce petit génac, ce petit spi, ce qu'on a pu faire comme travail sur l'amélioration du pilotage automatique. Bah, voilà, je pense qu'on a pu voir tout ça ensemble. Et c'est vrai qu'ensuite, l'arrivée en Martinique, bah, c'est assez sympa parce que finalement, comme il y avait... plus trop d'enjeux sportifs, on savait qu'on rattraperait plus New Europe. Bah, franchement, on a profité du tour de la Martinique, quoi. C'était génial. On est arrivé par le nord, et donc on a fait tout le tour de la Martinique à la voile, en passant après le Rocher du Diamant et la côte, arrivé en fin de journée. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça juste génial, cette arrivée. Et puis, bah, le plaisir de toucher terre, de retrouver l'équipe, certains de nos proches qui étaient là. C'est toujours des moments fantastiques, quoi.
Bah ouais, carrément. Et puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais du bateau à voile, hein. C'est pour aussi découvrir de nouveaux endroits dans des conditions en arrivant par la mer. C'est toujours un moment hyper hyper émouvant et hyper excitant, et comme on était tout seul quasiment arrivé dans ce créneau là au final, on a eu un petit comité d'accueil hyper sympa et chaleureux, et après tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment très fort d'avoir d'abord l'équipe qui embarque et puis de retrouver tout le monde. Ok, après c'était hyper chouette, c'était en fin de journée, tout le monde était là, tout le monde était heureux, et c'était chouette, ouais. Beaucoup d'émotions.
Bon, voilà, vous savez tout sur notre Transat Jacques Vabre, à Sophie et à moi. Et donc, Sophie, je tiens à te remercier particulièrement pour toute ton implication sur toute la saison 2023, à terre comme en mer, et cette Transat Jacques Vabre. Ça a été un plaisir de travailler, de naviguer avec toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. Merci beaucoup, Sophie.
Bah, merci Seb, merci à toi, à l'équipe, à vos partenaires aussi qui ont accepté que je monte à bord du bateau pour ces 6 mois de l'année. Franchement, si on m'avait dit l'année dernière que j'allais courir 2 transats, dont la Transat Jacques Vabre qui partait quasiment de la maison, j'aurais signé direct. Et le faire en plus dans ces conditions-là, découvrir l'IMOCA à tes côtés, ça a été une vraie grosse expérience où j'ai appris énormément. Donc merci, et puis je vais suivre avec beaucoup d'intérêt le projet jusqu'à cet objectif du Vendée Globe. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Merci encore, Sophie. Et puis, merci aussi à vous toutes et tous qui écoutez ce podcast, qui nous suivez. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le relayer, le partager, le liker, le diffuser. Ça nous aide beaucoup plus qu'on ne le croit. Et à très bientôt. Salut.